On va poursuivre avec la Croix-Rouge suisse, la Société nationale, et Monsieur Patrick Bondalin, qui est historien au siège de la Croix-Rouge suisse. Il a étudié à Fribourg et à Dresde. Il prépare actuellement une thèse de doctorat sur la Suisse humanitaire et ses œuvres de charité pendant la Première Guerre mondiale. Il est aussi co-auteur du livre 150 ans au siècle de l'humanité, la Croix-Rouge suisse 1866-2016. Le titre de sa présentation est « Secours aux prisonniers de guerre, la Croix-Rouge suisse et les initiatives privées dans le sillage du CICR ». Vous avez la parole.
Merci. Bonjour à tous. Donc ma contribution va tout à fait dans le prolongement de ce qu'a dit Cédric Cotter. Je retrouve beaucoup de choses aussi dans mes recherches qui comportent vraiment la même impression que Cédric. Donc ça me rassure et j'espère apporter aussi dans ma thèse quelques nouveautés parce que je m'attarde un peu plus sur la société civile. Les œuvres de secours qui émanent de la population suisse, c'est peut-être la différence de pondération que l'on peut faire entre nos deux travaux. Donc depuis le début des commémorations du centenaire en 2014, de multiples colloques scientifiques, des expositions, des thèses de doctorat et d'autres publications consacrées à la Grande Guerre montrent que la Suisse, bien que militairement épargnée, a été très fortement impactée par le conflit. En plaçant les questions de paix au centre de nos débats, ce colloque a le grand mérite de mettre en lumière un domaine sous-estimé pendant très longtemps par la recherche, donc celui de l'aide humanitaire internationale. La Suisse d'ailleurs qui a joué un rôle particulièrement actif dans ce domaine-là, parce que autant dans ce qui est de son indépendance économique, on sait très bien que la Suisse a été complètement réduite au silence, et n'avait finalement très peu de marge de manœuvre en tant que neutre, comme l'a dit un peu Cédric Cotter tout à l'heure. C'est vrai qu'elle essayait d'agir sous la demande de l'un ou de l'autre des belligérants, mais finalement elle avait une très faible marge de manœuvre. Et je crois que dans ce rôle humanitaire, elle a pu avoir une attitude un peu plus active. Donc mon exposé est tiré de mes recherches de doctorat, donc ma thèse est toujours en cours et concerne la Suisse et ses œuvres humanitaires pendant la Grande Guerre. En prenant aujourd'hui comme exemple la Croix-Rouge suisse, je vais montrer que dans le sillage du CICR, d'autres associations, d'autres formes de solidarité se sont mises en place en Suisse pour venir en aide aux prisonniers de guerre. Disposant d'un siège central à Berne, mais composé de nombreuses sections locales, implantées un peu partout sur le territoire suisse, la Croix-Rouge est à la fois une et multiple, un petit peu à l'image de la Suisse finalement. Analysé sous cet angle, nous découvrirons qu'elle n'est pas aussi homogène qu'elle n'y paraît et que c'est précisément dans ces lignes de fracture que sont nées et se sont développées de nombreuses œuvres de secours aux prisonniers de guerre, connues d'ailleurs sous le nom de marraines de guerre. Nous comprendrons ainsi comment cette œuvre, la Croix-Rouge suisse, à la base éminemment patriotique, s'est peu à peu réorientée vers l'aide humanitaire internationale. Il faut savoir, au début du siècle passé, la Croix-Rouge suisse entre dans un processus de modernisation et connaît une forte croissance grâce au dynamisme de son secrétaire général, Walter Sall. Si bien qu'en 1914, avec 50 sections locales et plus de 36 000 membres, elle fait partie des sociétés ayant le plus d'adhérents, proportionnellement au nombre d'habitants du pays. Le déclenchement de la guerre la surprend en pleine réorganisation. Selon ses nouveaux statuts, approuvés à la mi-juillet 1914, la Croix-Rouge suisse se retrouve en temps de guerre subordonnée à l'armée, comme l'indique précisément l'article 42. Je cite. En cas de mobilisation de guerre, la Croix-Rouge doit se mettre sous la direction des organes du service sanitaire de l'armée. Ses membres doivent donc une obéissance absolue en temps de guerre aux ordres des autorités militaires et de leurs représentants. Fin de citation. Ces organes civils sont donc dissous et on assiste à une militarisation de la Société nationale de la Croix-Rouge. Ainsi, du 3 août 1914 au 26 juin 1919, elle est sous la direction du médecin-chef de la Croix-Rouge suisse, Karl Bonny, désigné par le Conseil fédéral. Conformément à ses statuts, elle a pour mission de renforcer le service de santé de l'armée en y assurant le transport, l'assistance et les soins aux blessés, aux soldats blessés ou malades. Dès le 1er août, elle mobilise ses effectifs dans un état d'esprit résolument patriotique. Soit 500 hommes membres des colonnes de secours et près de 1000 infirmières diplômées. Sur le pied de guerre, la Croix-Rouge suisse n'entre cependant pas en action. Comme le pays échappe militairement au conflit, la société nationale se retrouve de facto écartée de sa mission première. Désœuvrée, elle ne reste pas pour autant les bras croisés. Elle se lance alors dans la fourniture de vêtements aux soldats suisses stationnés aux frontières, car beaucoup n'ont pas les moyens de s'équiper en linge de corps ou en habits chauds pour l'hiver. Cette tâche qui ne figure ni dans les résolutions internationales, ni dans les attributions ordinaires des sociétés de la Croix-Rouge, s'avère néanmoins très utile et très bénéfique pour la santé des militaires suisses. Œuvre d'assistance aux combattants blessés et malades, la Croix-Rouge se transforme ainsi en une œuvre d'hygiène au service de l'armée. Mais elle n'en reste pas là. D'emblée, en août 1914, il faut savoir que la Suisse est confrontée à l'exode des populations civiles qui s'empressent de regagner leur pays d'origine. En quelques semaines, environ 100 000 travailleurs italiens en provenance de France et d'Allemagne traversent le pays pour rejoindre leur patrie. Mais tous les civils n'ont pas la chance de pouvoir rentrer chez eux à temps. Surpris par le déclenchement des hostilités dans un pays étranger qui devient du jour au lendemain une nation ennemie, ces civils, considérés comme des étrangers indésirables, sont retenus puis internés dans des camps. Le 22 septembre 1914, le Conseil fédéral ouvre un bureau de rapatriement des internés civils à Berne, placé sous la surveillance immédiate du département politique. Ce bureau négocie et organise les transports d'environ 20 000 internés civils entre l'Allemagne et la France. Puis, dès le début de l'année 1915, l'Allemagne commence à expulser les habitants des territoires français qu'elle occupe militairement depuis le début de la guerre. Elle se débarrasse ainsi, en quelque sorte, des bouches à nourrir qu'elle juge inutiles et encombrantes par l'intermédiaire de la Suisse. Ces gens-là que l'on appelle les évacués, qui sont jetés par dizaines de milliers dans des trains reliant Schaffhouse et Bâle à Annemasse et Évian. Au total, près de 500 000 Français seront ainsi déplacés des territoires du nord-est de la France jusque dans la vallée du Rhône, jusque dans le centre de la France. Puis, dans la foulée de ces rapatriements, la Confédération prend en charge l'échange à travers le pays de prisonniers de guerre français et allemands gravement blessés. Et c'est à ce moment-là que la Croix-Rouge suisse entre en jeu. Désignée pour accompagner les convois d'un bout à l'autre du pays, et de pourvoir aux besoins des prisonniers invalides, elle exécute un travail très remarqué. Du 1er mars 1915, dès le 1er mars 1915, pardon, les premiers trains sanitaires circulent entre les villes de Constance et de Lyon, lieu d'échange des prisonniers. Le personnel masculin et féminin de la Croix-Rouge suisse, ainsi que les Samaritaines, s'occupent d'environ des 200 à 500 invalides que compte chaque convoi. Traversant le pays de nuit, les convois font des haltes dans les gares de Zurich, Berne et Fribourg, Lausanne et Genève pour y recevoir des collations. Les passages des trains ne laissent pas la population indifférente. Comme une fenêtre ouverte sur la guerre, ils attirent de nombreux curieux. Pour les sections de la Croix-Rouge suisse qui participent à l'œuvre d'assistance organisée dans les gares, cela signifie un important regain d'activité. À Genève, par exemple, une septantaine de membres de la section cantonale sont présents à la gare de Cornavin pour servir des repas et distribuer des petits cadeaux souvenirs lors de chaque arrêt. Cette initiative humanitaire, dont le prestige retombe finalement sur la Confédération, n'aurait pu se concrétiser sans le travail en amont du président du CICR, encore et toujours Gustave Adam. Avec force de conviction et talent diplomatique, il obtient, en coulisses, on parlait justement de cette à peu près diplomatie parallèle entre la Confédération et le CICR. Et à ce moment-là, Gustave Adorf réussit à obtenir le consentement des gouvernements français et allemands à ce projet humanitaire qui soulevait beaucoup d'objections de part et d'autre. Charitable, ce projet d'échange comporte également des enjeux en termes de politique internationale et de concurrence humanitaire. C'est ce qu'évoquait d'ailleurs Cédric Clotet tout à l'heure. Lorsque le 1er janvier 1915, le pape Benoît XV appelle de ses voeux les États à procéder à un échange de prisonniers invalides, Adorf s'empresse de faire aboutir les choses. Craignant que le succès diplomatique de l'opération n'échappe à la Suisse, il demande au médecin-chef de la Croix-Rouge suisse de s'entendre au plus vite avec Arthur Hoffmann, le chef du département politique, sur la mise en œuvre de ces transports et de rendre l'affaire publique. Je cite. Ce sont là, dit-il, des choses qu'il faut faire connaître au public afin de ne pas laisser à d'autres le mérite de l'initiative que nous avons hautement le droit de revendiquer. Il s'agit donc pour Gustave Adorf de ne pas laisser contester par d'autres la paternité de cette œuvre humanitaire. Ce service rendu aux belligérants doit aussi, quelque part, rendre service à la Suisse et par extension au CICR. À partir de novembre 1916, c'est au tour de l'Italie et de l'Autriche de procéder à l'échange réciproque des familles gravement blessées. En tout, la Croix-Rouge suisse va rapatrier plus de 80 000 prisonniers. Si l'action en faveur des prisonniers invalides lui vaut tous les éloges à l'étranger, elle est aussi perçue comme bénéfique sur le plan national pour la cohésion du pays. Dans son ouvrage de synthèse de 1979 sur la neutralité suisse, l'historien Edgar Bonjour écrivait à ce propos: autant la Suisse était profondément divisée en ce qui concerne les sympathies inspirées par les belligérants, autant elle accomplit d'un seul cœur son œuvre humanitaire. On admet ainsi volontiers que l'action humanitaire helvétique a contribué à apaiser les tensions entre confédérés, à surmonter ce fameux fossé réunissant romans et alémaniques autour d'une cause commune. Si à bien des écarts ce postulat paraît tout à fait convaincant, est-il pour autant exact? Dans quelle mesure les citoyens romans et alémaniques ont-ils réussi à se hisser au-dessus de ces clivages et à mettre toute leur énergie au service d'une cause, d'une préoccupation commune? Pour y répondre, il convient maintenant de voir plus en détail l'évolution des choses. À travers ces 50 sections réparties sur l'ensemble du territoire, la Croix-Rouge suisse forme, quelque part, un objet d'étude idéal pour percevoir ces différentes sensibilités locales de part et d'autre de la Sarine. Avec le rapatriement des prisonniers de guerre, l'année 1915 marque un véritable tournant pour la Croix-Rouge, qui après s'être limitée à l'organisation des collectes et à la distribution de linge pour l'armée, peut enfin mener une véritable activité humanitaire plus conforme à sa vocation. Son engagement en faveur de l'étranger donne donc une nouvelle dimension à cet esprit de solidarité. Il ouvre quelque part une brèche qui ne tarde pas à trouver écho auprès des sections locales de la Croix-Rouge. En effet, à partir de 1915, nombreuses sont ces sections qui, à côté de leurs tâches ordinaires, commencent à envoyer des secours à l'étranger. L'envoi de colis alimentaires aux prisonniers de guerre des nations belligérantes figure au rang des actions les plus prisées. Mais cette nouvelle forme de solidarité internationale se caractérise par un clivage linguistique très marqué entre les sections francophones et germanophones. Contrairement à leurs homologues romans, qui voient dans l'entraide internationale, pour résumer, une sorte de plus-value morale justifiant la neutralité, les alémaniques se montrent plus méfiants vis-à-vis des sollicitations extérieures. Ils les considèrent plutôt comme une menace pour la neutralité et la cohésion du pays. Ainsi, les sections germanophones restent strictement rivées à leurs tâches nationales. Le rapport d'activité de la section de la Croix-Rouge de Berne-Zélande résume bien la situation. Je cite: agir de manière patriotique devrait être plus que jamais le devoir de chaque Suisse. Aussi, c'est pourquoi notre comité s'est refusé de donner son consentement à l'invitation d'un exposé sur les camps de prisonniers, partant du principe que ces exposés reflètent le point de vue de leurs conférenciers et qu'il est du devoir de tous les éléments véritablement suisses de laisser de côté et de combattre tout ce qui désunit et tout ce qui désunit tout en mettant en évidence et en recherchant le bien commun. Programme de travail pour 1916, deux points, ce qui est utile à la patrie, point. Alors que les sections germanophones s'inscrivent en 1915 dans la continuité du programme traditionnel, à savoir les collectes de dons, la formation des colonnes d'auxiliaires, les cours de samaritain ou la remise de vêtements à l'armée, une douzaine de sections romandes se distinguent par leur liberté d'action. Le cas est manifeste à Genève, où la section Croix-Rouge ouvre une collecte en faveur des Serbes et recueille trois fois plus de dons en vêtements pour les Serbes que pour les soldats suisses. Mais les sections les plus modestes, celles des campagnes, celles des régions périphériques, ne sont pas moins actives et efficaces en matière de solidarité internationale. Des groupes de marraines s'y organisent, des bureaux d'expédition de colis sont ouverts et des collaborations se nouent parfois avec d'autres sociétés de secours. La région de l'Arc jurassien nous en donne plusieurs exemples. Dans son rapport d'activité de 1915, la Croix-Rouge du district de Courtelary, dans le Jura bernois, restitue l'état d'esprit qui anime ses membres. Je cite: jusqu'ici, nous avons été épargnés. Prouvons notre reconnaissance par des actes de bonté et de charité. Donnons et donnons à pleine main. La belle œuvre des marraines est toujours plus en faveur. Les prisonniers reçoivent des paquets qui sont les très bienvenus. Des comités se sont formés pour envoyer des secours aux prisonniers civils en Allemagne, en Autriche, en Russie. Dans le district voisin de Moutier, la Croix-Rouge dénombre plusieurs centaines de marraines et annonce l'ouverture de 6 bureaux d'expédition. L'attention particulière portée aux prisonniers de guerre figure aussi dans son rapport d'activité de 1915. L'ampleur de cette mobilisation populaire en faveur des prisonniers est tout à fait saisissante. Des groupes de marraines apparaissent un peu partout en Suisse romande, le plus souvent au sein des sections de la Croix-Rouge suisse. Travaillant sous l'égide de la Croix-Rouge, les marraines profitent des avantages au terme de notoriété et d'image. Elles peuvent compter sur de solides réseaux nationaux et internationaux et peuvent bénéficier des facilités administratives, gouvernementales pour l'acheminement de leurs lettres et de leurs colis dans les camps de prisonniers. Faisant preuve d'un gros dévouement et de pragmatisme, elles développent une activité considérable. Quelques exemples chiffrés permettent de s'en rendre compte. Dans le canton de Vaud, la Croix-Rouge de Sainte-Croix annonce avoir expédié dans l'année 1915 plus de 10 000 colis de secours aux prisonniers français détenus en Allemagne, sans compter les nombreux lots de vêtements en faveur des réfugiés civils serbes, polonais ou belges. À Montreux, le bureau de secours de la Croix-Rouge expédie jusqu'à 3 000 colis par mois. La petite commune de Saint-Imier, dans le Jura bernois, possède elle aussi un groupe de marraines qui soutient plus de 400 prisonniers français détenus en Allemagne et chaque mois, quelques 700 colis de secours leur sont envoyés. Enfin, un groupe de dames de la Croix-Rouge d'Yverdon-les-Bains a fondé un bureau d'expédition remarquablement organisé. Leurs archives nous en apprennent beaucoup sur le fonctionnement de l'eau. 6 grands livres, de 150 pages chacun, conservent les correspondances des marraines avec ceux qui sont désormais appelés leurs filles. Les informations individuelles les concernant sont soigneusement consignées. Nom, prénom, grade, matricule, lieu de détention, nombre de colis envoyés, date des envois, poids et contenu des colis. En tout, 2216 prisonniers des pays de l'Entente sont ravitaillés depuis Yverdon. La plupart sont de nationalité française ou belge, mais on trouve aussi quelques prisonniers russes ou italiens. Ils reçoivent en moyenne 1 à 2 colis par mois. Les paquets sont personnalisés en fonction des besoins qu'expriment les prisonniers dans leur correspondance et on leur envoie en général du chocolat, des macaronis, du riz, du café, des haricots, fromage, boîtes de conserve, tabac, savon ou mouchoir. Quant à l'expédition de ces colis, elle est assurée par le Bureau de secours aux prisonniers de guerre de Berne, une organisation fêtière d'un regroupement d'œuvres franco-suisses qui s'est installée dans la capitale et auquel la section yverdonnoise est affiliée. En observant de plus près l'organisation de ces comités de marraines, on s'aperçoit qu'ils entretiennent un lien très étroit de filiation ou de collaboration avec des œuvres similaires créées en France. Et le CICR n'y est, semble-t-il, pas étranger. En effet, en fin d'année 1914, le chef du service de correspondance du CICR, d'origine alsacienne, Max Dolfus, constate que de nombreux colis non utilisables ne sont pas distribués et jetés au rebut. Il obtient des postes fédérales et de la direction des douanes l'autorisation de les remettre à des prisonniers de guerre isolés sans soutien familial. Le mois suivant, 900 paquets non distribués sont couverts, triés, réemballés selon un modèle de paquetier, puis réexpédiés depuis Genève. L'opération fonctionne si bien que Dolfus souhaite la faire connaître en France. Il fait part de son idée à Georges Prade, le rédacteur du journal à Paris. Je cite. Il faudrait intéresser les femmes de France au sort des prisonniers qui sont dans le besoin et les pousser à constituer des paquets munis de l'indispensable. Il suffira que les généreux donateurs nous écrivent pour nous demander une ou plusieurs adresses de prisonniers. Elles leur seront envoyées de suite, prêtes à être collées sur le paquet. Ce sera le vrai patriotisme de la française dont je serai bien reconnaissant et dont je vous serai reconnaissant aussi si vous savez le faire naître. Dans un article du 16 mars intitulé « Femmes françaises adopter un prisonnier de guerre », le quotidien parisien reproduit l'appel lancé par Max Dolfus. Les réactions ne se font pas attendre. Du 22 mars au 15 avril, M. Dolfus a enregistré 1700 demandes pour des prisonniers nécessiteux et 1780 marraines ont été trouvées pour envoyer à tel ou tel prisonnier dont elles prenaient le patronage un collier de temps en temps, peut-on lire dans le procès-verbal du CICR. Bien qu'on se félicite du dynamisme des marraines françaises, On craint toutefois que le mouvement ne traverse les frontières et prenne racine en Suisse. Le CICR fait part de ses inquiétudes à l'ambassadeur de France à Berne dans une lettre du 23 avril 1915. Je cite. Cette œuvre très intéressante en France me paraît présenter de réels dangers si elle se poursuit en Suisse. Des renseignements de nature militaire pourront ainsi filtrer et parvenir en Suisse. Personne ne peut garantir du tact des braves dames qui, devenues marraines d'un soldat au front, publieront des extraits de sa correspondance. Personne ne peut garantir qu'il ne se glissera dans un service d'espionnage sous le prétexte de charité. Et comme on s'est adressé à des Suissesses pour entrer en rapport avec des soldats au front, elles se considéreront peut-être libres de dire des choses qu'on n'aurait pas dû leur confier. Il m'a paru utile de vous tenir au courant d'agissements qui peuvent présenter de sérieux inconvénients. Fin de citation. En dépit des mises en garde, un nombre croissant de marraines font leur apparition en Suisse romande dans le courant de l'année 1915. Comme nous l'avons vu, surtout dans le giron des sociétés de la Croix-Rouge suisse et principalement en faveur des prisonniers de l'Entente. Mis à part le CICR, deux autres facteurs sont à relever pour favoriser l'éclosion de ces groupes de marraines. Je dirais tout d'abord les ressortissants français qui, installés en Suisse, activent leur réseau français pour développer ces comités de secours. Et d'autre part, la presse, surtout les feuillets locaux, qui se font les vecteurs des initiatives charitables et stimulent la générosité populaire. Beaucoup d'entre eux lancent justement des appels aux dons, ouvrent des souscriptions pour les victimes de la guerre ou diffusent des communiqués de marraines. Ainsi, pendant de longs mois, les comités de marraines suisses font la preuve de leur utilité et sont plutôt bien acceptés par l'Allemagne. Du moins, jusqu'en été 1916, lorsque le ministère de la guerre de Berlin édicte une interdiction générale des correspondances entre les prisonniers de guerre de toute nationalité et les marraines des pays neutres. Comme prétexte à sa décision, l'Allemagne accuse les comités de secours des pays neutres de ne ravitailler que les captifs de l'Entente, souvent d'ailleurs en surabondance, et de négliger complètement le soutien de ces prisonniers de guerre. Cette interdiction n'empêche toutefois pas l'œuvre des marraines de se poursuivre encore quelques temps, et ce sont finalement des contraintes d'ordre économique qui vont sceller le sort de ces comités de marraines en Suisse. En effet, l'année 1917 s'accompagne de restrictions alimentaires et de difficultés économiques très grandes. Les contingents d'exportation accordés au comité de secours par le département de l'économie publique diminuent de mois en mois. Et finalement, ces comités de secours, ces marraines, doivent abandonner leurs expéditions vers la fin de l'année 1917. En conclusion, nous avons vu que la Croix-Rouge suisse a connu une profonde transformation durant le conflit, et on peut dire que le postulat selon lequel la Suisse aurait trouvé sa cohésion nationale dans son œuvre humanitaire mérite d'être nuancé. Les sections de la Croix-Rouge suisse romande et les groupes de marraines qui s'y rattachent ont fourni une aide internationale, certes, mais surtout unilatérale en fonction de leur sympathie francophile. L'état très lacunaire des sources rend très difficile toute estimation globale concernant cette activité des marraines en Suisse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles s'inscrivent dans un mouvement populaire très remarqué de solidarité internationale en Suisse romande. Je dirais même que, peut-être une question un peu provocatrice, mais sachant qu'on rencontre aussi beaucoup de comités de secours pro-belges, pro-serbes, aussi pour les prisonniers de guerre français en Suisse romande, est-ce qu'on ne pourrait pas dire quelque part que cette activité humanitaire internationale de la Suisse est un soutien déguisé ou indirect, quelque part, à la cause de l'Entente? Quand on voit le nombre, vraiment, de colis envoyés, d'aide dispensée pour les pays de l'Entente.